Je vous invite à prendre votre Bible et à regarder avec moi dans l'Évangile selon Jean. Et mon texte aujourd'hui, c'est du verset 7 à 18. Et je voudrais vous parler de la femme samaritaine. La femme samaritaine. Or, dans Jean chapitre 4, nous lisons verset 7, « Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire, car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. » La femme samaritaine lui dit, « Comment toi, qui es juif, me demandes-tu à boire à moi, qui suis une femme samaritaine ?» Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit, « Si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit « Donne-moi à boire », tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. » Seigneur, lui dit la femme, « Tu as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits, et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? » Jésus répondit, « Quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aurait jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusqu'à dans la vie éternelle. » La femme lui dit, « Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'aie plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. » La femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari, car tu as eu 5 maris et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. L'histoire continue, mais nous allons mettre une pause là. Alors, qui dit femme samaritaine dit femme pécheresse. C'était une façon, surtout dans la société juive, de dénigrer ceux qui étaient différents, que les juifs étaient eux-mêmes orgueilleux, traditionnaliste, et pensait que c'était le fait d'être juif qui leur donnait le droit au royaume de Dieu. Et donc, les relations entre les juifs et les samaritains n'étaient pas bonnes. Les juifs considéraient les samaritains comme des idolâtres, et cela à cause de leur histoire. Si vous étudiez dans l'histoire de l'Ancien Testament, vous verrez que les 10 tribus du nord d'Israël, Dieu a amené en captivité en Assyrie. Et pendant ce temps, ces Juifs-là se sont mariés avec les Assyriens et ont adopté leur pratique d'idolâtrie et leur paganisme, et cela est resté jusqu'au jour de Christ, lorsqu'il est venu. Donc, ils étaient considérés comme une race impure aux yeux des Juifs. Donc, pour cela, la femme elle-même était étonnée du fait que Christ, s'approchant d'elle, même s'adresser ses paroles à elle. Et jusqu'à ce moment-là, elle était encore dans l'ignorance, elle était, quoique femme pécheresse, perdue, ne sachant pas que c'est pour elle que le Seigneur Jésus-Christ est venu la chercher et la sauver. Nous avons vu ça dans le contexte du verset 4 où Christ a quitté la Judée pour aller en Galilée. Donc, il quittait le sud du pays pour aller au nord et la Samarie était au centre du pays. Les Juifs, d'habitude, prenaient un grand détour pour ne pas passer par la Samarie. Ils préféraient aller de l'autre côté du fleuve Jourdain et puis monter en Galilée que de passer par la Samarie. Mais ici, nous voyons, comme les Écritures disent, il fallait qu'il passât par la Samarie. Cela démontre que il passait par là uniquement pour rencontrer cette femme. Ça nous rappelle que Christ connaît ceux qui lui appartiennent. Il connaît ceux que le Père lui a donné depuis l'éternité. Tel est le cas de tous ceux qui sont élus de Dieu dans sa grâce depuis l'éternité. Nous ne sommes pas nés dans ce monde avec la connaissance de Dieu ou de Christ. Nous sommes nés dans l'aveuglement et dans cet état de perdition et de condamnation en ce qui concerne les ténèbres dans lesquelles nous nous trouvons. Mais si nous sommes effectivement de ceux que Dieu a choisi depuis l'éternité, a donné à son Fils pour qu'il vienne donner sa vie en rançon pour ceux-là. Donc, c'est clair que au temps prévu par Dieu lui-même, ordonné par Dieu lui-même, il s'approchera de nous et il nous attirera à Christ, comme le cas de cette femme samaritaine. Alors, il y a beaucoup de parallèles que nous pouvons tirer entre cette femme samaritaine et ceux qui sont des pécheurs, mais élus de Dieu. Et la première des choses que je vois ici, c'est que au moment où Christ a rencontré cette femme samaritaine, elle était une femme isolée, isolée par la société, isolée même en ce qui concerne la religion. Parce que plus tard, même lorsqu'elle parle de sa religion, elle parle d'une montagne dans le verset 20, sur laquelle ses pères ont adoré. Il y avait bâti là un temple à l'époque, mais il paraît que le temple était, au moment que Christ est venu, déjà détruit. Alors, elle n'avait pas réellement de place pour adorer Dieu, ni la connaissance de l'adorer en vérité. C'est comme beaucoup aujourd'hui qui tâtonnent. Ils font profession d'être chrétiens parce qu'ils vont à l'église quelque part et pourtant, ils ne sont pas encore dans la vérité. Ils n'ont pas encore reçu l'esprit de la grâce de Dieu pour connaître la vérité. Et nous voyons cela dans cette femme, mais en ce qui concerne sa vie de péché, elle était une femme isolée par le fait qu'elle n'était pas plus qu'une prostituée. Donc pour cela, elle était isolée de la société. C'est Christ lui-même qui a indiqué cela lorsqu'il dit à la femme d'aller dire à son mari. appelé ton mari et viens ici. Christ étant Dieu, bien vrai, Dieu de la chair, il apparaissait devant cette femme comme un homme, c'est tout ce qu'elle voyait. Mais le fait qu'il connaissait déjà son état démontre sa divinité. C'est comme pour nous, Christ nous connaît mieux que nous-mêmes. Nous ne pouvons pas cacher notre péché devant lui. Il nous connaît tel que nous sommes. Et voilà le problème avec la religion. Parce que la religion apprend aux gens à couvrir leur péché par des pratiques religieuses. Pourtant, ces pratiques ne peuvent jamais nous enlever du péché, de cette vie de péché. C'est seulement Christ. Mais Christ, en s'approchant de ceux qu'il est venu sauver par son esprit, il révèle en eux leur état de péché. Il pousse chacun à confesser, comme il a fait avec cette femme, son état de péché. Quand elle a dit dans le verset 18 qu'elle n'avait pas de mari, il a dit, tu as bien dit, dans le verset 17, tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari, car tu as eu 5 maris et celui que tu as maintenant, ce n'est pas ton mari. Alors, voilà une femme isolée. D'ailleurs, d'autres disent, c'est pour ça qu'elle est venue puiser de l'eau à midi. C'était au moment où il n'y avait pas certainement d'autres femmes qui étaient déjà là au puits avec lesquelles elle devait s'entretenir. Elle cherchait des moyens, surtout dans cette société. Une femme prostituée était marquée et séparée dans la société. Mais tout cela, je vois, c'était dans le plan de Dieu. Parce qu'il y en a qui vont dire, ah, une femme samaritaine, alors il n'y a pas d'espoir. Une femme prostituée, pas d'espoir. Et je dois dire que aucun de nous n'est mieux. Nous sommes tous des pécheurs par nature et séparés de Dieu et de la vie qui est en Jésus-Christ comme cette femme. Mais tout ce que je sais, c'est que si Dieu, dans son amour éternel, a ordonné à ce que nous soyons ses enfants par Jésus-Christ, donc rien n'empêche Dieu de sauver un tel. Nous avons dans l'Évangile un message glorieux pour les pécheurs. D'ailleurs, c'est pourquoi Christ est venu dans ce monde. C'était de chercher et de sauver les pécheurs. Alors, cela m'amène au deuxième point de ce message. Elle était une femme isolée à cause de son péché, c'est vrai, mais deuxièmement, une femme que Christ est venu chercher et sauver. Ça, c'est important d'insister là-dessus. Pas seulement chercher, mais chercher et sauver. Christ, en cherchant des pécheurs, il cherche ceux qui lui appartiennent. Il y avait beaucoup d'autres personnes en Samarie, mais Christ a passé par ce puits, il a passé par là, parce qu'il connaissait, il savait déjà qu'il y avait là cette femme qu'il devait amener à lui-même. Il y avait beaucoup d'autres à qui Christ n'a pas parlé, et une fois qu'il a fini cet entretien avec cette femme, qu'il a continué sur son chemin. Lorsque nous prêchons l'Évangile aujourd'hui, nous ne savons pas qui sont ceux qui appartiennent à Christ, qui sont ceux qu'il est venu chercher et sauver. Nous ne savons pas qui sont ceux pour qui il a déjà versé son sang, il a déjà racheté à la croix et sont justifiés devant Dieu. Nous ne les connaissons pas, Et ceux-là ne le savent pas non plus, jusqu'au moment où l'Esprit de Dieu daigne révéler Christ en eux. Mais nous prêchons l'Évangile, et c'est à Dieu de donner la vie, c'est à Dieu de diriger cette semence de Christ au cœur de ceux qui lui appartiennent. Mais faisons attention, parce que souvent nous voyons des gens et de par leur réputation, nous disons, ah, mais si tel est réprouvé, certainement c'est celui-là ou bien l'autre-là. Nous ignorons, même en disant cela, combien nous sommes pécheurs devant Dieu. Et combien si Dieu ne nous avait pas choisis par sa grâce et si Christ n'avait pas versé son sang pour nous, nous serions comme ceux qui sont laissés à la condamnation. Tel est notre droit. Dieu ne nous doit pas le salut. Mais ce qui est certain, c'est que Christ aura chacun pour qui il est venu dans ce monde. Il ne perdra rien de ce que le Père lui a donné. Voilà ce qu'il a dit. Alors, c'est pourquoi je dis ici, nous avons une femme que Christ est venu chercher et sauver. Elle venait à ce puits pour des besoins physiques à cause de la soif et du besoin de l'eau pour le lavage et autre chose. On ne peut pas vivre dans ce monde sans eau. Donc, elle venait pour des raisons personnelles, sans savoir que c'était effectivement Christ qui était en train de l'attirer exactement à ce moment. Voilà un exemple de la providence divine et combien les providences de Dieu sont admirables. Parce que, sans le savoir, cette femme venait au puits pour des raisons personnelles, mais c'était Christ qui était en train de l'attirer sans qu'elle ne le sache. Donc, voilà un exemple de la manière que Christ est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Il est le bon berger, et voilà un exemple de la manière qu'il décrit lui-même dans Jean chapitre 10, comment lui étant le bon berger, il appelle ses brebis et les brebis viennent à lui, comme il dit dans le verset 27, « Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. » Donc il faut dire que Christ connaissait cette femme samaritaine, bien avant que la femme samaritaine n'ait connu qu'il était effectivement le Christ. Mais Christ dit dans Jean 10, le verset 28, « Je leur donne la vie éternelle, et elles ne périront jamais, et personne ne les ravira de ma main. » J'aime bien ce verset, parce que cela démontre que le salut est entièrement entre les mains de Christ. Le monde aujourd'hui a renversé cela en disant que non, c'est Christ qui est entre les mains des hommes de faire avec lui ce qu'il veut, mais rien n'est plus loin de la vérité que cela. Donc, toute chair a été donnée à Christ afin qu'il donne la vie éternelle à ceux que le Père lui a donné. Voilà ce qu'il a prier dans sa prière sacerdotale dans Jean 17 et le verset 2. Donc, une femme vierge pécheresse, mais que Christ est venu chercher et sauver. Troisièmement, nous voyons ici que cette femme est une femme ignorante, c'est-à-dire encore perdue. C'est dans cet état que nous sommes tous nés dans le monde. Nous ne sommes pas nés avec la connaissance de Christ. pour nous délivrer, il faut que Christ lui-même se révèle en nous. Tel était ce qui était nécessaire pour cette femme. C'est pourquoi Christ a dit à Nicodème qu'il fallait qu'il naisse de nouveau, naître d'en haut. Et cette femme, c'est évident dans les versets 10 et 11, était ignorante non seulement de la personne de Christ, mais de son pouvoir de sauver et du salut en Christ. Elle était étonnée déjà dans le verset 9 que lui étant juif, il parlait avec elle en tant que femme samaritaine, mais Christ lui dit, si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. Voilà encore un verset qui contredit la pensée populaire aujourd'hui que l'homme doit exercer sa volonté d'abord, et puis maintenant Christ fait son œuvre pour sauver. L'homme fait le premier pas, voilà ce qui est prêché, et après maintenant c'est Christ qui fait le reste. Mais ici dans le verset 10 c'est le contraire. C'est évident que laissée à elle-même, cette femme ne pouvait jamais connaître Christ. Lui-même, il dit ça, « Si tu connaissais le don de Dieu », voilà ce que beaucoup ignorent aujourd'hui. Ils ne connaissent pas le don de Dieu. Tout ce qu'ils connaissent dans leur pratique, c'est qu'il faut maintenant œuvrer et tenter de mériter le salut. Donc, ils sont à l'œuvre. Mais telle n'est pas la voie de Dieu. Le salut est le don de Dieu. Christ lui-même le précise. Et ce n'est pas quel est le don de Dieu, mais qui est le don de Dieu. Parce qu'il dit, si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire. Le don de Dieu n'est pas autre que Christ. Je sais que nous avons déjà étudié ce verset dans Jean chapitre 3 et le verset 16 que beaucoup aiment citer à l'envers. C'est écrit « Car Dieu a tant aimé le monde ». Le « tant » là qui est traduit ici dans l'original, c'est le mot de cette manière. Donc il faut lire ça comme ça. C'est le même mot qui est utilisé dans le verset 14 de Jean 3. Et comme Moïse s'éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. Ça, c'est le même mot dans l'original que nous avons ici dans le verset 16, car Dieu a de cette manière, de même manière, aimé le monde. De quelle manière? La manière que Moïse éleva le serpent dans le désert et que le Fils de l'homme devait être élevé, c'est de cette manière que Dieu a aimé le monde qu'il a, noté, donné son Fils unique. Donc, le don de Dieu dont les hommes ignorent aujourd'hui à cause de leur état de péché, c'est que le salut est en Christ et réside en lui uniquement. Et c'est lui qui a le droit et le pouvoir de donner le salut à qui il veut. Le salut n'est pas entre nos mains. Et si Dieu laisse les hommes continuer dans leur ignorance, comme beaucoup, ils vont finir par la condamnation, n'ayant pas reçu le don de Dieu. C'est-à-dire, Dieu lui-même ne les a pas ouverts l'esprit pour connaître le Christ. Il laisse cela à leur propre volonté. Il n'y a pas de plus grand jugement que cela quand les gens disent « Non, mais je crois que l'homme doit avoir sa volonté. » Ah oui, si tel est ton désir et Dieu te laisse avec cette pensée, alors vous allez finir par la condamnation. Ici, c'est écrit afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Comment est-ce qu'un pécheur arrive à croire en Christ? Ce n'est pas de sa propre volonté. Exactement comme cette femme samaritaine n'aurait jamais pu connaître Christ si lui-même d'abord, il ne s'est révélé en elle. Alors voilà ce qui est nécessaire. Donc, une femme ignorante, mais puisque le Seigneur est venu la chercher et la sauver, il ne pouvait pas la laisser dans son ignorance. Et tel est notre cas. Quand on réfléchit sur notre passé et nous voyons le chemin que nous avons poursuivi dans la religion, imaginant servir Dieu jusqu'au moment où il a plu à Dieu maintenant de révéler Christ en nous. C'est là que nous voyons maintenant, il aurait pu nous laisser dans notre ignorance, mais par sa grâce, c'était nécessaire. Nous savons qu'il ne pouvait pas nous laisser dans l'ignorance parce qu'il nous a déjà choisis depuis l'éternité et Christ a déjà payé la dette. Donc, il aura chacun pour qui il est mort. Mais combien est grande cette ignorance? Il y a beaucoup de versets qu'on pouvait toucher là-dessus, mais dans Jean, plutôt dans Éphésiens chapitre 4, et le verset 17, voilà ce que nous pouvons dire concernant cette ignorance spirituelle. En fait, c'est une rébellion, c'est un aveuglement, jusqu'à ce que Christ daigne nous ouvrir les yeux spirituels. Éphésiens chapitre 4, verset 18 au 17 dit, « Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur, c'est que vous ne devez plus marcher comme les païens. » C'est-à-dire, une fois que Christ s'est révélé dans cette femme samaritaine, il y avait une séparation maintenant avec son passé. Elle, maintenant, appartenait à Christ et ce n'était plus question de continuer à adorer dans l'ignorance. Ouais. Nous ne devons plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leur pensée. Cela décrit la plupart du monde religieux aujourd'hui qui marche dans la vanité de leur pensée, adorant Dieu de la manière qui leur semble bon, mais qui est contraire à cette parole. Je peux dire qu'une fois que Dieu, dans sa grâce, nous ouvre les yeux, nous ne pouvons plus retourner dans des lieux où peut-être on adorait avant, imaginant adorer Dieu, nous ne pouvons plus nous mettre au milieu de cela parce que maintenant, nous avons cette connaissance de Christ dans la vérité et nous ne pouvons que nous rassembler qu'avec ceux qui sont de même foi par la grâce de Dieu. Donc, voilà ce qui fait la différence. C'est la révélation de Christ. Autrement, nous sommes dans cette ignorance comme la femme samaritaine. Et cette ignorance est écrite dans le verset 18 d'Éphésiens 4. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ce n'est pas que les gens ne réfléchissent pas. Ce n'est pas qu'ils ne se font pas des idées et même qu'ils sont zélés, mais ce n'est pas selon la vérité, ce n'est pas selon l'intelligence que Dieu donne. Ils ont l'intelligence obscurcie. Voilà pourquoi nous ne voulons pas nous dépendre de notre volonté. Elle n'est pas libre, comme les gens parlent de libre habit, non. Notre volonté est esclave, obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause, voilà, de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ces deux mots sont synonymes, l'ignorance et l'endurcissement. Il y en a qui plaident l'ignorance et disent « Ah, mais je ne savais pas ». Non. Dans le cas des choses spirituelles, c'est un endurcissement en ce qui concerne les choses de Dieu. Christ a dit aux pharisiens, vous ne voulez pas venir à moi. Voilà ce qui est l'obstacle, c'est la volonté même de l'homme qui n'est pas libre de choisir. L'homme laissé à lui-même serait toujours endurci en ce qui concerne les choses de Dieu. Et verset 19 dit, ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impurité jointe à la cupidité. Il y en a qui lisent ça, ils disent, ah oui, mais ça c'est leur vie dans le monde. Non, il s'agit de leur manière d'adorer que Dieu considère comme l'impudicité. Parce que ce n'est pas basé sur la seule justice de Dieu en Jésus-Christ. Ce n'est pas selon la grâce de Dieu. Tout ce qui est selon les œuvres de nos mains et n'est que l'iniquité. Alors, cette femme samaritaine, une femme ignorante. Mais nous continuons, revenant dans notre texte dans Jean 4 et à partir de verset 12. Elle était une femme traditionnaliste. Voilà l'état de beaucoup que nous rencontrons aujourd'hui. Une fois que nous commençons à leur parler des choses spirituelles ou parler de Christ, ah voilà, ils prennent position. Comme cette femme, elle demande à Christ, es-tu plus grand que notre père Jacob? Rappelons-nous que quoique Samaritain, de racine, les Samaritains avaient leur origine en Jacob. Rappelons-nous que c'était les 10 tribus d'Israël que Dieu a amenées en jugement, en captivité, qui se sont mélangées maintenant avec les Assyriens et adoptées leur manière d'adorer dans l'idolâtrie. Mais chacun réclame toujours Jacob comme leur père ou bien Abraham comme les Juifs. Il faut dire même les musulmans, parce que les musulmans sont les descendants d'Abraham par Ismaël. Donc même les musulmans aujourd'hui réclament Abraham comme leur père, mais tout cela n'a pas d'importance en ce qui concerne le salut de Dieu. Pourtant, les gens mettent l'importance sur leurs racines historiques et leur dénomination, leur organisation religieuse. Elle réclamait, et c'est pourquoi elle venait particulièrement à ce puits, parce que ce puits avait une histoire que, comme elle dit, que Jacob en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux. Il y a des gens aujourd'hui qui font des pèlerinages pour aller en Israël, parce qu'ils veulent aller toucher les endroits où Christ a marché, ou bien ses disciples, ou bien même Jacob, comme ceci, et ils reviennent imaginant que maintenant ils sont un peu plus bénis, parce qu'ils ont vu d'eux-mêmes ces endroits. Et je dois vous dire que ce n'est que de l'idolâtrie. Mais voilà la tradition de cette femme. Et voilà ce qui l'aveuglait davantage jusqu'à ce que Christ lui-même s'est révélé en elle. Et puis cinquièmement, nous avons ici une femme en qui Christ devrait se révéler. Voilà le point clé de tout ça. Bien vrai, une femme samaritaine. Bien vrai, une femme isolée à cause de son péché. Et une femme aveugle, une femme traditionaliste. On peut imaginer, tout cela devait servir d'obstacle C'est vrai que si ça dépendait de l'homme, d'abord de faire son choix afin que Christ maintenant sauve, alors personne ne pouvait s'en sortir. Mais la bénédiction est de savoir que ceux que Christ est venu chercher et sauver, en fait, ils se révèlent en eux. L'apôtre Paul lui-même a dit ça dans son témoignage qu'il a donné aux Galates. Et le chapitre 1, à partir du verset 15, si quelqu'un veut savoir comment un homme comme Paul, enraciné dans sa religion d'œuvre, comment il aurait pu même croire en Christ, il dit dans Galates chapitre 1, verset 15, « Mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce, notez verset 16, de révéler en moi son Fils. » Voilà ce qui est nécessaire, et ce qui était nécessaire pour Paul était nécessaire pour cette femme samaritaine et aussi nécessaire pour qui que ce soit que Dieu sauve. Ça exige que Christ lui-même, par son esprit, se révèle en nous. Et nous voyons ça dans le verset 13, où Christ dit à cette femme, « Quiconque boit de cette eau aura encore soif. » Il y en a qui vont dans leur assemblée, leur lieu de culte, rien que pour recevoir une bénédiction provisoire. Peut-être qu'ils ont des problèmes dans le foyer, ou bien ils manquent de l'argent, ils ont des dettes, ils ont d'autres problèmes. Donc ils viennent, et pour eux, c'est d'avoir quelque chose à boire qui pouvait quand même apaiser un peu cette soif générée par ces problèmes. Et donc, ils s'en vont, mais chaque fois, ils reviennent parce que il n'y a jamais de solution permanente en, de cette manière d'adorer. Et c'est à cela que Christ rappelle cette femme. Quiconque boit de cette eau aura encore soif. Et je peux dire, dans la religion, quiconque boit de ces puits qui sont puisés par les mains des hommes, comme elle fait confiance à ce puits qui était creusé par Jacob, que elle doit toujours revenir et avoir encore soif. Il n'y a pas de vrai salut dans cela. Mais voilà où Christ maintenant commence à se révéler en elle, parce qu'il faut voir le changement déjà dans la manière qu'elle s'adresse à lui. D'ailleurs, elle s'adresse à lui à partir du première parole de Christ, dans le verset 10, on voit déjà un changement où elle dit « Seigneur » dans le verset 11, sans savoir peut-être ce qu'elle disait exactement, mais commençant maintenant déjà à s'adresser à lui comme Seigneur. D'où vient ce changement? Et encore, ici dans le verset 15, la femme lui dit, « Seigneur, donne-moi cette eau afin que je n'aie plus soif. » C'est Christ qui est déjà en train de travailler dans son cœur et se révélant en elle. Et même sa manière de s'adresser à lui, quoique toujours dans l'ignorance, mais néanmoins, le Seigneur se révèle en elle pour l'attirer à lui. Ce n'est pas d'un coup. Et je dois dire que c'était comme ça dans ma vie. Quand je regarde en arrière et je vois l'ignorance dans laquelle je me trouvais, et comment Christ, maintenant, à travers sa parole, a commencé à petit, me montrer l'erreur de ma pensée, l'erreur de mon cœur, comme il va montrer ça à cette femme, mais en fin de compte, afin que les yeux maintenant soient ouverts pour connaître qui il est, exactement ce qu'il a accompli à la croix. Ça, c'est la manière que Dieu agit. Hein? Donc, c'est pourquoi il dit dans le verset 14, « Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai, n'aura jamais soif. » L'eau que Christ donne, c'est lui-même. Il est lui-même ce don. C'est la révélation de Christ en nous, qui maintenant fait en sorte que nous n'avons plus soif pour les choses qu'on cherchait auparavant, les choses temporaires, mais soif pour Christ lui-même. Mais notez bien, c'est l'eau que Christ donne. Ce n'est pas une coopération entre Christ et le pécheur, non. C'est l'eau que Christ donne. Et il dit, l'eau que je lui donnerai deviendra en lui. Il y en a qui ont eu une révélation de Christ à eux, on peut dire, ils ont entendu prêcher, entendu parler, mais la différence, c'est la révélation de Christ en nous. Christ en nous, qui est l'espérance de la gloire. Et il dit, cette eau deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusqu'à dans la vie éternelle. Cela montre que le salut est de l'éternité et pour l'éternité. Ce que Dieu donne et ce que Christ sauve, c'est pour toujours. Voilà le message de la grâce de Dieu. Donc, une femme en qui Christ devrait se révéler. Et c'est pourquoi la femme a répondu dans le verset 15, « Seigneur, donne-moi cette eau. » Alors nous voyons l'importance d'abord pour Christ de se révéler dans le pécheur et la croyance, le cri d'un tel pécheur, c'est le résultat, c'est le fruit de cette œuvre de Christ dans le pécheur. N'oublions jamais cela. Beaucoup ont cela à l'envers. D'abord, ils ne connaissent même pas le Christ de la Bible. Ils connaissent un Christ qui est selon leur imagination, parce que plus tard, cette femme dit cela dans le verset 25, « Je sais que le Messie doit venir. » Donc, ils attendaient un Messie, mais la différence, c'est que ce n'était pas ce Messie-ci. Christ tel qu'il est dans la Bible, Christ tel que Dieu a annoncé dans sa parole. Voilà le Christ qui est cette eau qui jaillit jusqu'à dans la vie éternelle. Et puis, en dernier lieu, je voudrais souligner que nous avons ici une femme confrontée par son état de péché. Avant d'entendre la bonne nouvelle, il nous faut entendre la mauvaise nouvelle. Cela veut dire l'état de péché dans lequel nous nous trouvons. On ne peut pas couvrir le péché. Et l'Esprit de Dieu ne le fait non plus. D'ailleurs, quand la lumière brille dans les ténèbres, ça fait disperser les ténèbres. Donc, c'est pourquoi Christ, dans le verset 16, lui a dit d'aller appeler son mari, sachant qu'elle était une femme prostituée. C'était une manière pour Christ encore de tirer d'elle cette confession de péché, comme l'apôtre Jean s'adresse dans le verset, dans le chapitre 1 de son épître, 1 Jean chapitre 1 et le verset 9, où il dit, si nous confessons notre péché, bon, quand il dit confesser notre péché, cela ne signifie pas de confesser ce péché-ci ou ce péché-là, mais de confesser. Le mot signifie de dire la même chose que Dieu dit au sujet de notre péché. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner.
Il est fidèle et juste à son Fils parce que Christ est venu payer la dette du péché. Donc, il est fidèle à son Fils. Il est juste en son Fils pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Donc, Christ ici, en parlant à cette femme concernant son mari, ce n'était pas dans l'ignorance. Il savait que c'était une femme prostituée, mais c'était pour qu'elle même confesse ce qu'elle est. Parce que la femme répondit dans le verset 17, « Je n'ai point de mari. » Jésus lui dit, « Tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari, car tu as eu cinq maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. » Voilà la confession. C'est Christ lui-même par son esprit qui nous pousse ou bien qui nous donne cette grâce de confesser ce que nous sommes devant lui. Et d'ailleurs, quand la femme est partie pour dire à tous ceux du village cette rencontre avec Christ, elle dit dans le verset 29, « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. » On peut dire « tout ce que je suis. » Donc, elle est venue à ce puits, une femme pécheresse et perdue, et elle est partie confessant ce qu'elle était, mais dans la joie de savoir qu'en Christ, il y a le pardon. En Christ, il y a le salut. Voilà une femme pour qui Christ devait aller maintenant et donner sa vie à la croix. Alors voilà le passage que nous avons eu le temps de contempler aujourd'hui. C'est un message vraiment glorieux pour ceux que l'Esprit de Dieu montre qui sont véritablement des pécheurs devant lui, mais le message glorieux, c'est que le Seigneur Jésus est venu dans le monde chercher et sauver ce qui est perdu. C'est une parole digne de toute acceptation que Christ est venu dans le monde chercher les pécheurs dont je suis le premier. Alors que le Seigneur bénisse cette parole à ceux qui lui appartiennent.